Grand Rue. L'autre qui est arrivé mercredi dernier, qui est logé au logement de la Poste. Alors, ces deux familles sont composées principalement de jeunes femmes ou de jeunes filles, sauf la deuxième famille qui a un petit garçon de 11 ans et un petit bébé de 3 semaines. Pour ce qui est la première fois, nous avons suivi le process normal qui nous a été, le déroulé nous avait été envoyé par circulaire par la préfecture. Donc la première famille, nous avons emmené la première famille à la préfecture sur rendez-vous, me semble-t-il, vendredi dernier. Donc première étape, reconnaissance de ces personnes avec création d'une pièce d'identité française qui leur permet par la suite d'obtenir le statut de réfugié politique qui sera renouvelé de 6 mois à 6 mois jusqu'à 3 ans. Deuxième étape, je vous parle pour la première famille puisque tout se fait en décalé dans le temps par rapport à leur arrivée. Donc la première famille, ce matin même, nous avons amené la première famille pour la deuxième étape à la préfecture. Je n'y étais pas ce matin, donc je ne sais plus exactement. C'est à côté de la préfecture où nous avons été reçus par un représentant de l'office d'immigration qui se situe à Marseille, mais aussi c'est l'époque des économies, donc ils préfèrent envoyer un représentant une fois par semaine plutôt que de faire descendre X personnes sur Marseille de chaque village ou ville récipiendaire, je dirais. Voilà, donc ce matin, la première famille a reçu officiellement son statut de réfugié, et donc je ne sais pas si ça a été activé ou pas leur numéro de sécurité sociale afin qu'elle bénéficie de la CMU, ainsi que une carte bancaire qui a été approvisionnée à raison de 7 euros par personne. Et par jour, oui, bien sûr, par jour. Et par jour. Le bémol, c'est que cette carte bancaire ne prendra effet, ne sera utilisable par ces personnes que d'ici 45 jours. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, et cette carte bancaire ne leur servira qu'à acheter dans les magasins. Ce n'est pas une carte de retrait d'AB. Voilà. Bon, pour ce qui est, voilà, pour la première famille, la deuxième, nous avons rendez-vous ce vendredi à la préfecture pour la première étape et nous serons sûrement rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième étape. En attendant, nous avons fait appel à la population de Camaret. Nous avons eu beaucoup, beaucoup de retours positifs, c'est-à-dire pas tant pour le logement d'urgence qui était déjà meublé, mais il était meublé en logement d'urgence et non pas un logement d'occupation pérenne, je dirais. Par contre, le logement de la Poste était vide et donc nous avons reçu beaucoup de dons, à commencer par des lits, des matelas, des sommiers, des canapés, des buffets de cuisine, de façon à ce que ces personnes puissent arriver, trouver un toit, être chauffées et pouvoir vivre au quotidien normalement. La mairie, nous avons fait en sorte qu'elle trouve, comme l'on dirait vulgairement, les placards et les frigos garnis. Nous les avons attendus, nous les avons accueillis. Personnellement, ainsi que Madame Dier, d'autres élus et Madame Char du CCAS, nous y allons pratiquement tous les jours. Nous nous occupons de voir si tout va bien pour elle, s'il y a un problème, nous appelons les services techniques, ainsi de suite. Et voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne sais pas ce que vous pourriez. Si vous avez une question, posez-la, il n'y a pas de souci.
Non, je voulais savoir simplement si vous bénéficiez d'une enveloppe supplémentaire pour une aide à ces réfugiés.
Alors, pour ce qui est d'une enveloppe supplémentaire, pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. C'est en cours de discussion. Alors voilà, vous avez vu monsieur le maire, il a dit non. Alors voilà, disons que elles sont venues sans matériel, sans vêtements, pratiquement sans vêtements. Elles sont venues avec le moins de bagages possible, mais l'une comme l'autre famille arrive à subvenir à leurs propres besoins En plus de ce, une famille est arrivée, bon, je ne veux pas trop dévoiler, mais enfin, est arrivée avec des espèces. Nous l'avons emmenée à Avignon pour qu'elle, le seul bureau de change du Vaucluse qui est sur la rue de la République à Avignon, nous l'avons emmenée récemment. Elle a, donc cette personne a effectué une opération de change. Et l'autre personne, l'autre famille, pas plus tard que ce matin, je l'ai emmenée faire des courses parce qu'elles n'ont pas de voiture. La deuxième famille n'a pas de voiture. Je les ai emmenées faire des courses à Carrefour à grands frais parce qu'elles vont à Intermarché, elles viennent sur le marché, mais il y a des produits qu'elles ne trouvent pas sur place, je dirais. Et je me suis rendu compte qu'elles payent avec leur téléphone. Disons, elles subviennent à leurs besoins quotidiens et nous nous faisons en sorte, pour la deuxième famille, je me permets de préciser que la jeune maman a accouché dans certaines dans des circonstances pas très... le 2 mars en Ukraine. Donc, je ne vous détaille pas l'ambiance autour d'elle. Et elle est partie aussi sec, je dirais, avec son bébé dans les bras, pour faire des milliers de kilomètres en bus et des centaines de kilomètres en train. Donc, dès qu'elle est arrivée, nous avons fait appel. Vous me rappelez le nom du pédiatre, Yann ? Docteur Semé, qui est un pédiatre en retraite d'Orange et qui est arrivé tout de suite pour voir le bébé. Donc heureusement, le bébé n'a pas souffert du voyage ni des mauvaises conditions de sa naissance. Et le lendemain, nous avons réussi, toujours par l'intermédiaire de Yann, à obtenir un rendez-vous chez le docteur Bramley. Lydia Bramley, que vous devez connaître, qui était gynécologue accoucheur sur à l'hôpital d'Orange, qui est maintenant un cabinet au centre médical, qui l'a reçu tout de suite, au plus rapide, qui a fait ce qu'il fallait faire. Et les deux docteurs ont été vraiment ont joué le jeu. Bénévoles, n'ont pas voulu être payés, leur ont donné des médicaments, leur ont fait une prescription médicale et leur ont dit j'ai les médicaments, je vous les donne, il n'y a pas de souci. De même, par exemple, ces personnes, pour la préfecture, doivent avoir des photos d'identité récentes. Donc nous nous sommes adressés à l'opticien de Camaret. Et qui, pareil, a joué le jeu, les a reçus, a fait des photos d'identité, n'a absolument pas voulu être payé, de même Pro et compagnie, qui nous ont beaucoup aidés, tout, voilà. Beaucoup, pour ne pas dire tous les commerçants de Camaret, ont été très, 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 très accueillants vis-à-vis de ces familles. Voilà. Voilà.
Parfait, je vous remercie.
À mon tour de remercier les élus sous la houlette de René Sauvera qui se sont impliqués dans cette opération. Clémence Dier, la directrice de cabinet. Effectivement, la question de la compensation financière, pour l'instant, pour nous, de toute façon, on n'en a pas réfléchi, on n'a pas réfléchi à ça, mais pour l'instant, il n'y en a pas pour les communes, même si nous avons dû faire face à certaines dépenses. Et notamment un investissement, puisque nous avons aménagé un logement d'urgence qui n'existait pas auparavant et qui se révèle d'une grande utilité. Voilà. En ce qui concerne le CCAS aussi, je voulais souligner que, puisque vous comparez avec d'autres communes, je propose de comparer le budget du CCAS de la commune de Camaret avec le budget du CCAS d'autres communes voisines de même taille. Et là, je pense qu'il y aurait des surprises. Voilà. Je n'en dis pas plus. En ce qui concerne le vote de la subvention pour le CCAS, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, et je vous en remercie. Dossier numéro 7, attribution des subventions aux associations ou autres organismes, rapporteur Chantal Bergel.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1611-4 et L2311-7, vu l'article 10 de la loi 2000 321 du 12 avril 2000 modifié relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Vu le budget primitif de la commune de Camaret-sur-Aigle pour l'exercice budgétaire 2022, vu les demandes des subventions faites par différentes associations ou organismes pour l'année 2022, vu l'avis de la commission des finances réunie le 4 avril 2022, il est demandé au conseil municipal d'attribuer les subventions suivantes, fonctionnement et exceptionnel, conformément au tableau récapitulatif annexe. Association sportive, association culturelle, association enfance scolaire, association organismes divers. La somme relative à ces subventions sera imputée à l'article budgétaire 65-74 de la section de fonctionnement du budget 2022 de la commune de Camaret-sur-Aigle pour un montant de 80 195 euros.
Merci. Y a-t-il des questions ? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité et je vous en remercie. D'accord. Il est noté que M. Jean-Luc Dacosta, qui doit être trésorier, enfin voilà, les élus... Jean-Baptiste Savin. Laurence Turchini. Jean-Luc Dacosta, Sylvette Gilles, qui c'est que j'ai oublié ? Isabelle Lattard et Jean-Baptiste Savin, je l'avais dit aussi. Voilà. Il en sera pris bonne note au procès verbal. Merci. Je passe au dossier numéro 8, organisation de gestion de l'enseignement catholique, l'OGEC. Convention concernant la contribution de fonctionnement de l'école Saint-Andéol, rapporteur Sylvette Gilles.
Le financement des classes élémentaires publiques et privées est une dépense obligatoire des communes. Il est proposé une nouvelle convention avec l'Organisation de gestion de l'enseignement catholique, l'OGEC, afin de définir les conditions de financement des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et maternelles de l'école Saint-Andéol par la commune de Camaret-sur-Aigle. Le financement des classes élémentaires est réglementé, ainsi que désormais celui des classes de maternelle. La présente convention fixe un forfait par élève égal au coût moyen par élève constaté dans les écoles publiques élémentaires et maternelles de Camaret, école primaire Frédéric Mistral et les Amandiers, et école maternelle La Souleyade. Ce forfait est établi à partir des dépenses relevées dans le compte administratif N-1 de la commune. Le montant du forfait communal versé annuellement par la commune est aligné sur l'évolution du coût moyen de l'élève du public maternel et élémentaire, multiplié par le nombre d'élèves de l'école Saint-Andéol âgés de plus de 3 ans, présents à la rentrée scolaire et dont la résidence se situe sur la commune de Camaret. Le montant de ce forfait fait l'objet d'une révision annuelle. Pour l'exercice 2022, il est calculé comme suit. Donc, le dépense par élève, c'est 2021, hein, pas 2020. Je pense que vous l'avez déjà corrigé. Alors, pour l'école Mistral, 578,50 €. Pour les Amandiers, 532,93 €. Ce qui donne une moyenne pour les classes de primaire pour les élèves de primaire de 555,71 €, et pour l'école maternelle 1917,60 €. Nombre d'élèves âgés de plus de 3 ans dont la résidence se situe sur le territoire de la commune de Camaret, scolarisés à l'école élémentaire Saint-Andéol durant l'année scolaire 2021-2022, 97 élèves, dont 34 élèves de maternelle et 63 élèves de primaire. Le montant brut s'élève donc à 1917,60 € multiplié par 34, plus 555,71 € multiplié par 63 pour un total de 65,198,40 € plus 35,009,73 € pour un montant total de 100,208,13 €. Il convient aussi de tenir compte des aides et participations humaines et matérielles que la commune met en œuvre chaque année au profit de l'école Saint-Andéol et qui sont détaillées dans la convention annexée. Vu les articles L212-8, L442-9 et R442-44 du Code de l'éducation, vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, vu le décret 60-389 du 22 avril 1960 modifié et notamment l'article 7, vu la circulaire 2007-142 du 27 août 2007, vu le contrat d'association du 10 mars 1989 passé entre l'État et l'école privée Saint-Andéol de Camaret, ainsi que l'avenant du 27 juin 2007, vu les sommes allouées aux écoles publiques de Camaret pour l'année civile 2021, vu les effectifs des écoles publiques de Camaret pour l'année scolaire 2021-2022, vu les effectifs de l'école privée Saint-Andéol, vu le budget 2022 de la commune, vu l'avis de la commission des finances réunie le 4 avril 2022, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention concernant la contribution de fonctionnement de l'OGEC, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention ainsi que tout document y afférent, d'allouer une contribution de fonctionnement de montant de 100,208,13 € alors à l'OGEC au titre de l'année 2022, de dire que cette somme est imputée à l'article 65-58 de la section de fonctionnement du budget principal de la commune. Et vous avez annexé la nouvelle convention.
Merci. Y a-t-il des questions ? Oui, monsieur Normani.
Merci, monsieur le maire. Juste pour une question de transparence et d'équité, pourquoi ce budget n'est-il pas fixé par élève plutôt que par école ?
Je ne comprends pas bien votre question.
Pourquoi ce budget est fixé par école et non pas par nombre d'élèves ? Pour en aller à l'élève, parce que là on ne sait pas les élèves qu'il y a dans chaque classe. C'est juste une progression de transparence et de simplification. Mais voilà.
Ce qu'on a détaillé. En fait, ce que vous avez dans cette délibération et dans cette convention, c'est justement un détail pour bien comprendre comment on calcule le forfait de Saint-Andéol. On aurait pu se contenter de vous dire, au regard des dépenses 2021 des écoles publiques, le coût par élève, toute classe confondue est de temps, on multiplie par temps et on trouve le résultat qui détermine le forfait de l'école. Donc on a choisi, nous, de détailler par école pour qu'on voit bien ce que coûtent les élèves dans chaque école, qu'elle soit primaire ou maternelle, et d'ensuite de faire le calcul en faisant la moyenne. Voilà.
Merci.
Je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Numéro 9, bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières, année 2021, rapporteur Christine Wynne-Kellmann.
Conformément à l'article 11 de la loi 95-127 du 8 février 1995, modifié par l'ordonnance 2006-460 du 21 avril 2006, le bilan 2021 des acquisitions et cessions immobilières a été dressé. Se caractérise par les acquisitions suivantes. Un terrain cadastré section AW120-AW245-AW246, situé à Camaret-sur-Aigle, Grand Rue, acte notarié du 28 avril 2021. une parcelle cadastrée section AW 91 située à Camaret-sur-Aigle, parking de la Poste, pour l'euro symbolique. Délibération 2019/077 du 14 novembre 2019. Les sections suivantes. Une bande de terre cadastrée section AW 248 située à Camaret-sur-Aigle, 23 avenue Fernand Gonnet, acte notarié du 29 juillet 2021. Un ensemble immobilier en copropriété cadastrée section AW 227 situé à Camaret-sur-Aigle, un cours du midi, acte notarié du 2 septembre 2021. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte du bilan ci-dessus dressé.
Merci. Les questions ? Pouvons-nous prendre acte ? Alors, je mets aux voix qui est pour, qui est contre plutôt, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci. Modification du numéro 3 du plan local d'urbanisme, rapporteur Christine Winkelmann.
Monsieur le maire rappelle que la commune de Camaret-sur-Aigle dispose d'un plan local d'urbanisme, PLU, approuvé par délibération 2016 d'Élub 100 en date du 13 décembre 2016. Monsieur le maire rappelle que la commune de Camaret-sur-Aigle dispose d'un plan local d'urbanisme PLU approuvé. Ah, excusez-moi, le 13 décembre 2016, plus modifié le 7 décembre 2017 sous forme simplifiée, ainsi que le 22 janvier 2020. Monsieur le maire indique que la procédure de modification du plan local d'urbanisme peut être utilisée conformément aux dispositions de l'article L153-36 du Code de l'urbanisme. Il précise que cette procédure est possible dès lors qu'elle n'a pas pour effet soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable, soit de réduire un espace boisé, classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance, soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les 6 ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisition foncière significative de la part de la commune ou de l'établissement public de la coopération intercommunale compétente, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. Monsieur le maire indique que la modification du PLU de la commune souhaitée, engagée, a pour l'objectif d'ouvrir une zone 2AU située entre la route d'Orange et le chemin du blanchissage afin de permettre, d'une part, à la communauté de communes Aigouvaise en Provence d'y ériger son siège social et le nouvel hôtel communautaire, puisqu'elle a fait le choix de ne plus louer les bâtiments qu'elle occupe aujourd'hui en raison des charges de fonctionnement que cette location entraîne. Et d'autre part, de créer une zone d'activité économique, environ 15 000 m2, afin d'y accueillir les entreprises locales, puisque en l'état actuel des choses, et malgré de nombreuses demandes, il n'existe aucun foncier d'entreprise disponible sur le territoire intercommunal. Monsieur le maire indique que lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture ou l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la fiabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. Il indique que que le projet de modification doit être soumis à une enquête publique et qu'avant l'ouverture de l'enquête publique, ce projet doit être notifié aux personnes publiques appelées à émettre un avis. Monsieur le maire présente la justification de l'ouverture de la zone 2AU située entre la route d'Orange et le chemin du blanchissage, ainsi que la faisabilité opérationnelle. L'objectif est de permettre à la communauté de communes de construire son nouveau siège et d'ouvrir à la commercialisation des parcelles pour accueillir de nouvelles entreprises. En effet, aujourd'hui, il n'existe aucun foncier disponible sur le territoire intercommunal, que ce soit pour les besoins propres de la communauté de communes ou pour le développement économique. Les besoins en foncier sont d'environ 5000 m² pour la construction du siège de la communauté de communes. Et il devrait y en être aménagé 8 parcelles entièrement viabilisées d'une surface allant de 1500 à 3000 m² correspondant aux besoins des entreprises locales. Compte tenu de leur localisation et de leur configuration, les quelques secteurs ouverts à l'urbanisation ne permettent pas de répondre aux besoins actuels pour le siège de la communauté de communes et l'accueil d'activités économiques. La zone concernée par la présente modification du PLU est située au sein d'un tissu urbanisé de la commune. Ce terrain, situé à proximité du carrefour giratoire de la route d'Orange et d'une superficie un peu plus de 2 hectares, est parfaitement adapté aux besoins de la communauté de communes. Le nouveau règlement du PEB ne permet plus d'y aménager des constructions à usage d'habitation. Il dispose d'un accès par la route d'Orange et d'un autre accès par le chemin du blanchissage. Aujourd'hui, ce secteur est desservi par l'ensemble des réseaux. Réseau électrique, gaz de ville, eau potable, assainissement, qui présente une capacité suffisante pour adapter à son urbanisation. L'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU, située entre la route d'Orange et le chemin du blanchissage, au sein du tissu urbanisé, permettra ainsi à la communauté de communes de disposer de ses propres locaux à usage de sièges administratifs et hôtels communautaires, et de contribuer au développement économique du territoire en favorisant l'accueil de nouvelles entreprises eu égard à la carence actuelle en ce domaine. Considérant que le plan local d'urbanisme a été approuvé par délibération du conseil municipal en 13 décembre 2016, puis modifié le 7 décembre 2017 sous une forme simplifiée et le 22 janvier 2020. Considérant qu'il y a eu lieu à lancer cette modification du plan local d'urbanisme, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le maire et en avoir délibéré, il est demandé au conseil municipal de prescrire la modification du plan local d'urbanisme qui a pour objectif d'ouvrir la zone 2AU située entre la route d'Orange et le chemin du blanchissage afin de permettre à la communauté de communes de construire son nouveau siège et d'ouvrir la commercialisation des parcelles pour accueillir de nouvelles entreprises. De donner pouvoir à Monsieur le maire de mener toutes les démarches nécessaires à la réalisation de cette procédure. De solliciter de l'État, conformément au décret 83-1122 du 22 décembre 1983, qu'une dotation soit allouée à la communauté pour couvrir les frais matériels et les études nécessaires à la modification du plan local d'urbanisme. Que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la modification du plan local d'urbanisme seront inscrits au budget de l'exercice considéré, chapitre 20, article 202. La présente délibération sera transmise au préfet et notifiée au président du conseil régional et du conseil départemental, au président de la Chambre de commerce et industrie, de la Chambre des métiers et de la Chambre de l'agriculture, au président de la communauté commune Aigouvez en Provence, au président du syndicat mixte du SCOT du bassin de vie d'Avignon. La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention d'un journal diffusé dans le département.
Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur Lomani.
Oui, monsieur le maire, il y a des questions. D'abord, permettez-moi de vous faire part de ma surprise de cette délibération, puisque dans un conseil municipal précédent, lorsque vous avez présenté les nouveaux plans des bâtiments de la communauté de communes, il semblerait que j'ai entendu, mais peut-être que je suis trompé, qu'on allait construire sur des terrains appartenant à la communauté de communes. Est-ce que ces terrains appartiennent à la communauté de communes ?
Non, ces terrains appartiennent à un particulier.
Donc, c'est ce que vous aviez dit, c'est votre plan B, si j'ai bien entendu, et je me rappelle vos propos.
Sans doute, puisqu'effectivement, il était question d'implanter le siège de la communauté de communes sur des terrains qui lui appartenaient, c'est-à-dire au même endroit, en réalité, que là où nous espérons pouvoir réimplanter le cabanon. Donc, le problème, c'est que dans la version initiale, l'implantation initiale, nous sommes en zone agricole. Et il nous a été signifié que construire un équipement public administratif sur une parcelle qui est en zone agricole, le déclassement du zonage n'allait pas être évident pour une activité qui n'est qu'une activité administrative. C'est ce qui se justifie davantage pour le cabanon, bien entendu, puisque le cabanon a un lien avec l'activité agricole. Donc nous avons effectivement eu recours à un plan B.
Vous savez absolument, j'imagine, qu'une zone qui était en 2 AUD, si elle n'est pas utilisée depuis plus de 6 ans, revient en zone agricole. Et donc vous allez retomber sur le même problème. On en reparlera, monsieur Mabailly. On en reparlera.
Non, on en reparlera, monsieur Mabailly.
Laissez-moi terminer.
Je vous réponds. Le délai pour déclasser cette zone est au 13 décembre 2022. Donc la procédure telle qu'elle est enclenchée aujourd'hui, avec une procédure de 5 mois qui nous mène en octobre, on est encore dans les clous pour la déclasser.
Oui, je n'ai pas tout à fait tort dans ce que je vous explique. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que cette zone a bien été inscrite au SCOT ? Parce que si elle n'est pas inscrite au SCOT, vous savez que vous ne pourrez pas faire cette démarche-là. Ensuite, ça va coûter beaucoup d'argent, puisque vous allez passer d'une zone agricole à 5 euros le mètre carré, à peu près, à 50 à peu près le mètre carré. Donc, qui va payer ? J'imagine que c'est les contribuables, puisque j'imagine que c'est la communauté de communes qui va faire cette acquisition. Ça, c'est la première question. Deuxième question, quelle garantie a-t-on dans l'extension, et je ne peux que vous en féliciter de vouloir faire venir des entreprises, que cette deuxième partie sera bien affectée à, non pas des constructions, puisque comme vous le dites dans le PEB, elle est dans la zone du PEB, mais dans la zone du PEB, on peut construire, si on y met les formes qu'il faut, des bâtiments à destination d'habitation.
Absolument pas. Non, justement pas.
Ok, d'accord.
Ça c'est clair et net, monsieur Normani. On est dans un zonage au titre du PEB où toutes les constructions destinées à accueillir de la population de façon permanente est rigoureusement interdite.
Bien. Et donc, au bout du bout, c'est bien le contribuable de la communauté de communes qui va financer cet achat. Et nous sommes dans des situations où, que ce soit la mairie, enfin la commune, comme vous nous l'avez dit dans le budget, ou que ce soit la communauté de communes, se trouve dans des situations financières complexes.
Alors, comme cela a été indiqué au début de la délibération, il est quand même important de souligner qu'actuellement, la communauté de communes est locataire. Et locataire. Donc c'est le contribuable qui paye une location, alors qu'il serait bien plus rentable, ça je pense que tout le monde peut le comprendre, d'être propriétaire. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été propriétaire jusqu'à présent ? Parce que, à un moment donné, un préfet, il y a quelques années, a dit « Non, vous n'achetez pas votre siège social parce que vous allez peut-être disparaître ». Au bout de quelques années, on s'est rendu compte que la CCAOP était parfaitement viable, pertinente, efficace. Et donc, maintenant, l'État n'a plus du tout l'intention de faire disparaître la CCAOP dans le nouveau schéma intercommunal. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent. Et c'est la raison pour laquelle, sur le strict plan de la bonne gestion des deniers publics, comme vous le disiez, Monsieur Normani, il est bien plus efficace, bien plus intéressant d'être propriétaire que locataire. Oui, sachant que le loyer annuel est de 400 000 euros.
Oui, je l'entends complètement, mais après ça dépend du prix, ça va dépendre du prix global. Ça va dépendre du prix global, puisque là vous aviez fixé pour le bâtiment de la CCAOP 1,5 million. Il va falloir ajouter le terrain.
Oui, mais à la longue, vous vous rendez bien compte qu'à la longue, ça sera rapidement amorti par le fait qu'on est propriétaire.
J'entends bien, mais...
Et alors, j'ajoute aussi que le fait d'accueillir en dehors du siège des activités économiques, ça va générer des recettes fiscales pour la communauté de communes, qui va largement s'y retrouver, et le contribuable aussi.
Oui, alors en ce cas, vous allez redistribuer des attributions de compensation, j'imagine, avec la communauté de communes.
Ah non, le mécanisme des attributions de compensation ne fonctionne pas comme ça. L'accueil de nouvelles entreprises sur le territoire de Camaret n'implique pas, par exemple, une diminution de l'attribution de compensation à Camaret, ni une augmentation d'ailleurs.
Oui, donc vous comprendrez que ça ne va pas apporter de la richesse à la commune, cet investissement-là.
Ça va apporter de la richesse à l'intercommunalité qui, depuis 2 ans maintenant, a mis en place, par exemple, des fonds de concours pour aider aux investissements des communes membres de l'intercommunalité. Donc, de façon indirecte, ça quand même, les ressources de l'intercommunalité sont quand même redistribuées partiellement aux communes membres.
De toute façon, on va pas délibérer, je ne vais pas vous expliquer trop longtemps, mais
vous pouvez vous exprimer tant que vous voulez.
Vous allez voter, de toute façon nous sommes minoritaires, donc vous aurez la majorité, il n'y a pas de souci sur le sujet. Je vous avais dit lors d'un premier conseil municipal que vous aviez géré votre premier mandat en bon père de famille. Et là, je sens que c'est un peu à la petite semaine. Parce que, franchement, vous m'inquiétez, monsieur le maire, vous m'inquiétez. Pour terminer, il y a une petite coquille sur le budget au niveau de l'investissement pour le PLU qui est de 9 000, 1,5 000.
Oui.
Il y a une petite erreur.
Il y a un zéro en trop.
Il faudra corriger, sinon on est en mauvais esprit, penser que c'est 95 000 euros.
Mais encore une fois, n'importe qui à notre place ferait la même chose. Quand on a les moyens d'être propriétaire, plutôt que de payer un loyer annuel très très élevé, il vaut mieux être propriétaire. Oui, monsieur Boncorsini.
Non, mais je comprends tout à fait votre raisonnement, ça me paraît même très logique. Mais vous me dites 400 000 euros par an. Bon. Oui, mais vous avez enregistré des 400 000, j'ai eu peur. Bon, d'accord. Ok. Et ma question c'était. Pardon ?
Monsieur le maire a le droit
de se tromper ? Mais moi j'avais donné 400 000, donc du coup j'ai eu peur. Non, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que le fait de pouvoir acheter ce bâtiment plutôt que construire ailleurs, est-ce que vous mettez plutôt en avant le fait qu'on va agrandir la zone ? Parce qu'à la limite, ils auraient pu racheter le bâtiment, s'il est assez grand pour faire leur activité. Ou vous pensez que c'est uniquement pour le fait d'avoir une zone plus grande pour pouvoir agrandir la zone d'activité ?
C'est les deux. L'opération va nous permettre d'être propriétaire et en plus d'accueillir de nouvelles entreprises.
Parce que je suis persuadé que de racheter le bâtiment, ça aurait coûté moins cher qu'on a construit. Non, c'est tout.
Non, alors, racheter le bâtiment actuel. Alors, le problème, c'est que la communauté de communes devient à l'étroit, puisque on ne reste plus en 2013, hein, les choses ont évolué. La communauté de communes a absorbé de nouvelles compétences. Donc, qui dit nouvelles compétences dit nouveaux services, nouveaux agents, et donc il faut loger tout ce monde-là. Et là, on devient à l'étroit. Monsieur Normani.
Oui, pour terminer, parce qu'il va y avoir après donc l'achat, la construction du bâtiment à peu près 1,5 million, comme vous l'aviez prévu, il va y avoir l'achat du terrain, et puis après il va y avoir la viabilisation de ces terrains. Donc est-ce que tout ça est budgété ? Alors je sais que c'est notre budget, et c'est pas l'objet d'ici, je suis d'accord, mais quand même, le contribuable, quand même, c'est toujours le même.
Oui, mais la viabilisation va profiter à toute la zone, donc aux entreprises qui vont s'implanter et qui vont générer des recettes. C'est du développement économique. Oui, oui. Oui, excusez-moi, j'ai peut-être mis un zéro de trop tout à l'heure. C'est bien 40 000 par an. Mais déjà, 4 000 euros par mois, c'est...
On a quand même des problèmes avec zéro.
Oui, 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 oui.
Après, M. Normandie, les terrains sont achetés à un prix, seront revendus à un autre prix également, hein, viabilisés.
Donc, j'entends bien, M. Auriac, j'entends bien. La problématique que je soulève, c'est la trésorerie et de la CCAOP et de la communauté de, et de la commune qui sont en difficulté et qui, là, vont l'être un petit peu plus. C'est tout. Effectivement, dans le temps, dans la durée, vous avez entièrement raison et je suis tout à fait d'accord pour l'augmentation et ce projet. C'est seulement son moment et son coût. C'est tout.
À ce moment, il est déterminé par la fin du bail. Donc, on a réussi à avoir une petite prolongation de quelques temps, mais ça ne sera pas éternel. Et donc, il faut qu'on se positionne maintenant, franchement, au niveau de la communauté de communes, pour devenir propriétaire.
J'en reviens, il y a une petite erreur d'évaluation sur le moment où on a donné notre fin de bail, puisque c'était prévu au départ sur un terrain de la communauté de communes. Donc, oui, c'est tout, voilà, je reçois ce petit problème. Voilà.
Bon, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, ensemble pour Camaré.
Moi perso. Monsieur, je m'abstiens personnellement.
Monsieur Normandie s'abstient et les autres membres du groupe votent pour, je pense. Adopté à la majorité et je vous en remercie. Débat sur la protection sociale complémentaire, rapporteur Antonio Muga.
L'ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire, PSC, dans la fonction publique prévoit que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et leurs établissements publics organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un délai de un an à compter de la publication de la présente ordonnance. Cette obligation s'impose à toutes les collectivités et établissements sous la forme d'une présentation et d'un débat à l'Assemblée délibérante à organiser avant le 18 février 2022, non soumis au vote. Chaque collectivité est libre de définir les contours de ce débat. Ce dernier peut être nourri par un état des lieux de la PSC dans la collectivité en s'appuyant sur le rapport social unique, le RSU, qui comporte des éléments tels que les montants attribués à la PSC dans le budget primitif, le nombre d'agents qui souscrivent en santé et en prévoyance, ou encore la part de labellisation. Après en avoir débattu, il est demandé au conseil municipal de prendre acte des dispositions prises par la collectivité en matière de protection sociale complémentaire et de celles qu'elle compte mettre en œuvre à l'avenir, comme décrit ci-dessus. Situation actuelle. Risque santé, aucune participation de la commune. Risque prévoyance, la collectivité participe à la hauteur de 9,90 euros brut par mois pour tout agent pouvant justifier d'un certificat d'adhésion à cette garantie par un organisme labellisé. Nombre d'agents concernés, 31 agents. Budget prévu en 2022, 3 682,80 euros. Situation à venir, mise en œuvre de l'obligation de participer financièrement. Risque santé, au plus tard au 1er janvier 2026, à hauteur de 50% minimum d'un montant de référence. Risque prévoyance, au plus tard au 1er janvier 2025, à la hauteur de 20% minimum d'un montant de référence. Vous avez eu en pièce jointe les explications concernant la mise en place du PSC. À savoir qu'à l'heure actuelle, les montants de référence, on n'en a pas, car aucun décret n'est sorti à ce jour. Donc il sera très compliqué pour nous à ce jour de pouvoir mettre en place un montant dit de référence.
Encore une modification législative qui impacte les finances communales. Monsieur Normani.
Je me permets de vous répondre sur votre dernière remarque.
Je vous en prie.
Nous accueillons des réfugiés et nous le faisons sans regarder les coûts. Je pense que nos salariés, nos fonctionnaires doivent quand même avoir un bien-être qui s'améliore.
Certes, mais après, qui c'est qui va dire qu'il y a une augmentation des dépenses de personnel ? C'est vous. Voilà. Par exemple, quand on a institué la prime de fin d'année, bah, ça a eu un coût important, ça n'existait pas avant. Bah, voilà, ça gonfle le budget du personnel.
J'entends bien. C'est une question de gestion des charges et des ressources.
Y a-t-il d'autres interventions ? Eh bien, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Création d'emplois non permanents pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité, rapporteur Antonio Muga.
Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la fonction publique et notamment son article L332-23, vu le budget de la commune, considérant qu'il est nécessaire de recourir à l'emploi d'agents non titulaires pour faire face à un accroissement saisonnier, considérant que ces agents exerceront à titre principal les fonctions d'adjoint d'animation territoriale et d'adjoint technique territoriale, oui, la proposition de M. le maire de créer ces postes d'adjoint d'animation territoriale et d'adjoint technique territoriale. Il est demandé au conseil municipal d'accepter de créer les postes suivants pour un accroissement saisonnier. 27 postes d'adjoints d'animation territoriale à temps complet pour le service jeunesse, accueil de loisirs sans hébergement club ado, temps d'activité périscolaire pour les vacances de printemps et de juillet et août. Et un poste d'adjoint technique territorial à temps complet pour le service technique. D'imputer les sommes afférentes à cette dépense au chapitre 012 du budget principal de la commune.
Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Cette fois-ci, il n'y a pas de déclaration d'intention d'aliéner, ni de décision. Y a-t-il pour autant des questions diverses ? Monsieur Pancorsi.
Non, juste tout à l'heure, on parlait des travaux. Je fais partie de la commission des travaux. Je voudrais savoir s'il y a des commissions, parce qu'autant que je me souvienne, j'ai assisté qu'à une seule réunion.
Oui, il y a une commission qui est prévue prochainement, oui, notamment pour évoquer ce que nous comptons faire avenue du Mont-Ventoux, rond-point des Amandiers et chemin battu.
Puisqu'on y est, est-ce qu'on peut avoir une idée du prochain conseil municipal ?
Alors, le prochain conseil municipal, pour le coup, et de façon exceptionnelle, on n'a pas encore déterminé la date, ce sera fin mai, début juin. Des
élections ? Vous voyez qu'il y a un poste de ministre ?
Il est accueilli. Je ne ferai aucun commentaire. Malgré les provocations. Je vous souhaite une bonne soirée.